présenter Pierre Jourjon, donc diplômé d'études supérieures de l'École du Louvre, qui a travaillé préalablement à la bibliothèque Fessard dans le 19e arrondissement, puis a fait un passage aussi à la bibliothèque Fornay, avant d'intégrer la cellule patrimoine du service des cimetières en février 2013. Il y a eu création en fait d'un poste de documentaliste au sein de cette structure, et donc Pierre Jourjon va nous présenter un peu en quoi tient ce travail documentaliste et quelle est la place en fin de compte du végétal dans cet univers très minéral que sont en fin de compte les cimetières parisiens.
Bonjour, donc là je vais vous parler du centre de documentation des cimetières parisiens, qui est de création beaucoup plus récente que la bibliothèque de la SNHF, puisque c'est en effet en 2007, à la suite d'une importante vague de vols dans les cimetières parisiens, où les objets en bronze tout particulièrement étaient volés, que le secrétariat général de la ville de Paris prend conscience de la nécessité d'établir un inventaire du patrimoine funéraire. Chose qui n'avait jamais été faite, car le patrimoine funéraire est en effet, dans son immense majorité, constitué de biens privés. Donc c'est au sein du service des cimetières, qui dépend de la direction des espaces verts, qu'une petite cellule patrimoine a été mise en place en 2007, avec à sa tête une conservatrice générale du patrimoine, assistée d'une adjointe administrative, et ponctuellement d'un ou d'une vacataire en poste pour une durée de 6 mois. Et en 2013, la cellule patrimoine a quasiment doublé ses effectifs en créant donc ce poste de documentaliste que j'occupe dès lors. Donc je vais vous présenter d'abord en quoi consiste notre travail, qui est assez peu connu, et puis dans un deuxième temps, montrer aussi quelles sont les ressources dont nous disposons au centre de documentation et qui concernent le végétal. Donc les missions de notre cellule patrimoine s'organisent autour de 4 axes. Tout d'abord l'inventaire du patrimoine funéraire parisien. Donc à Paris, c'est 20 cimetières, 634 000 sépultures, et on estime que 20% à peu près des sépultures présentent un intérêt historique avec, c'est très variable en fonction des sites. Au Père-Lachaise, vous allez avoir... Dans certains secteurs, vous aurez 7 tombes sur 10 qui présenteront un intérêt. Au cimetière de Pantin, on va passer à 1 sur 20, voire 1 sur 50, voire moins. Donc avec de grosses dissemblances. Ensuite, un autre axe de cette cellule, c'est l'examen des sépultures à l'état d'abandon qui sont reprises par l'administration. La restauration ou l'encadrement des travaux de restauration des monuments dont la ville de Paris est propriétaire. Et enfin, diffuser l'information, répondre aux demandes de chercheurs, etc. Donc tout d'abord, l'inventaire du patrimoine funéraire qui nous occupe en majeure partie. Nous avons mis au point, une méthodologie a été mise au point. On travaille à partir de cartes, de plans cadastrés, et on procède par division. C'est un inventaire tombe à tombe que nous menons. Par exemple, dans l'exemple que j'ai choisi ici, vous avez... On ne voit pas du tout les couleurs, mais bon, c'est pas grave. Vous avez une partie de la première division du cimetière de Montmartre. Donc, sur ce plan cadastré, on procède d'abord à un relevé des matériaux. Donc, en jaune, vous avez les sépultures en pierre calcaire, en gris, celles qui sont en granit, et le petit carré rouge signale la présence d'un enclos métallique toujours présent. Ensuite, nous relevons les typologies, avec en bleu foncé les chapelles, en bleu un peu plus clair les typologies intermédiaires de type coffre, en bleu très clair les typologies de type dalle stèle, et en blanc, nous laissons juste les typologies plates, les simples dalles. Ensuite, nous relevons toutes les tombes qui présentent un intérêt patrimonial de par leur forme, de par leurs inscriptions, de par leurs matériaux, toutes celles que nous jugeons bon de retenir et donc pour lesquelles nous dressons une fiche inventaire. Nous relevons aussi la présence des personnalités, car les cimetières parisiens sont très riches en titulaires de la Légion d'honneur, en morts pour la France ou en célébrités très diverses. Ensuite, à partir de des registres de nos cimetières, des registres des matrices cadastrales, nous dressons en fait, nous étudions le lotissement des divisions. Avec, vous voyez, chaque couleur correspond à une fourchette chronologique de 10 ans. Et ça permet de voir la manière dont s'est loti nos divisions. Et en rouge, vous avez ici barré toutes les tombes qui ont fait l'objet d'une reprise administrative. À partir de cette cartographie, nous pouvons obtenir des données chiffrées. Et nous pouvons donc voir ici que cette division s'est lotie principalement entre 1850 et 1859. Et on peut voir aussi les variations de typologie entre l'état d'origine et ce que nous voyons actuellement. Donc la modification, si vous voulez, du paysage funéraire. À côté de ces travaux de relevé cartographique, on mène aussi une campagne photo pour tous les monuments que nous avons retenus au titre de l'inventaire. Donc là, par exemple, cette chapelle, photographiée selon une méthode qui nous est propre, donc toujours un angle trois quarts gauche, de face, trois quarts droit, de préférence aussi une vue arrière, donc là il n'y en a pas, mais généralement il y en a une, et puis des détails aussi, et les inscriptions aussi, qui sont retranscrites ensuite dans notre base de données. Voilà, donc toutes les informations sont versées dans cette base de données mausolée, qui consiste en plusieurs onglets, avec une description du monument, une description des personnalités, et tous les éléments que nous avons pu relever sur le monument, avec des thésaurus qui permettent d'effectuer des recherches. Donc là, j'ai mis en exergue le thésaurus sur les ornements végétaux, et qui nous permet, vous voyez, à droite, si on a envie, par exemple, de savoir le nombre de, mettons, je sais pas, de chapelles avec une représentation de cyprès, on peut tout de suite faire remonter l'information. Donc, le deuxième axe de travail de la cellule patrimoine, c'est l'examen des reprises administratives. Donc, depuis 1924, la perpétuité n'est plus réelle en quelque sorte. À partir du moment où un monument est perçu comme étant à l'état d'abandon, des constats d'abandon sont effectués, des courriers sont envoyés aux familles, et si personne ne se manifeste dans un délai de 3 ans, l'administration peut reprendre les sépultures. Donc ici, vous avez la 29e division du Père Lachaise, avec toutes les sépultures faisant l'état d'une reprise. Donc c'est un secteur très très critique, puisque c'est en plein cœur du secteur romantique du Père Lachaise, donc la partie la plus ancienne. Donc à l'issue de cet examen, qui est réalisé par Guénélogue Roux, la conservatrice générale du patrimoine en charge de la cellule patrimoine, un certain nombre de préconisations sont faites. Avec ici, je vous ai mis quelques exemples de préconisations, à savoir un monument qui ne présente pas d'intérêt, qui est à l'état de ruine, qui peut être donc revendu, un autre emplacement qui va être conservé par rapport aux végétaux qui y poussent, qui va être conservé pour ses qualités paysagères, et un monument, enfin une chapelle donc, avec une personnalité, un intérêt architectural, et qui là va être conservé et avec une interdiction de revente. Donc là, la ville devient propriétaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle va pouvoir effectuer des travaux de restauration. On ne peut pas faire de travaux de restauration sur des biens qui sont évidemment en main des familles. Et à partir du moment où le monument passe aux mains de la ville, on peut restaurer le bien. Il y a aussi un autre type de conservation qui se développe depuis quelques années, qui est le fait de transformer des chapelles abandonnées en mini colombarium. Et vous pouvez voir ça au Père Lachaise, à Montmartre, et de plus en plus dans de monuments qui sont repris et transformés en mini colombarium pour faire face aussi à la demande des nouvelles pratiques funéraires en lien avec la crémation. À l'issue aussi de ce travail de reprise administrative, toujours dans cette 29e division, vous pouvez voir aussi un projet paysager qui avait été fait. Le choix de faire des plantations ou d'aménager des espaces, de dégager des passages ou de planter donc des arbustes. Donc, le troisième axe, c'est la restauration des monuments dont la ville de Paris est propriétaire. Derrière moi, vous avez le monument aux morts de Bartholomée, restauré en 2009. Et puis là, un exemple que je trouve assez frappant, de la stèle du dragon dans la 29e division, la division qu'on vient de voir, donc, qui avait fait l'objet de ces reprises, et avec l'avant et l'après, le travail de restauration en 2008 de la restauratrice Béatrice Dubarry. À côté de ces travaux de restauration qui sont engagés sur nos fronts propres, il y a ces chantiers de jeunes restaurateurs, chantiers bénévoles d'été, menés par l'association Les Appels d'Orphée, que nous encadrons, et donc on leur donne un certain nombre de listes de monuments qui nous appartiennent et sur lesquels qu'ils peuvent donc restaurer pendant cette période estivale. Enfin, le dernier axe, c'est la diffusion de l'information, l'accueil des chercheurs, la réponse aux diverses questions. Donc, nous avons pour ce faire une bibliothèque très modeste, constituée pour l'essentiel de dons, de livres de récupération, avec des ouvrages généralistes, mais aussi quelques mémoires universitaires, des recueils de tombeaux du XIXe siècle et des guides de cimetières français ou étrangers, qui sont un peu notre richesse. Mais le fond est quand même très incomplet, c'est très compliqué d'arriver à mettre la main sur ces publications qui sont généralement les tirages sont très réduits et c'est souvent local, souvent en visitant un cimetière de province ou à l'étranger que vous allez pouvoir acheter la brochure à l'entrée du cimetière, mais vous allez avoir du mal à la trouver dans les grands circuits de diffusion. Et donc le catalogue, cette bibliothèque a été cataloguée et vous pouvez retrouver donc les titres dans le catalogue des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris. À côté de cette bibliothèque, il y a aussi un espace documentaire. Donc en 2007, zéro dossier et vous voyez aujourd'hui 8800 dossiers qui concernent les tombeaux, avec là aussi une information qui est très variable. Un dossier peut être, peut voir le jour parce qu'on a reçu un mail nous donnant un élément sur une tombe, donc on va conserver l'information. Des dossiers sont beaucoup plus conséquents, par exemple Jim Morrison qui va remplir une boîte entière parce qu'on a énormément d'éléments sur cette sépulture et divers événements qui ont eu lieu autour de celle-ci, voire même considérable comme Eleusea Bellard qui à lui seul remplit quatre boîtes. Donc voilà. À côté de ces dossiers tombeaux, nous avons 585 dossiers qui concernent les artistes, les architectes, sculpteurs, maîtres verriers, intervenants qui se sont consacrés, enfin qui ont réalisé un tombeau. À côté de ça, nous avons une documentation numérique et puis des plans et des documents d'archives qui proviennent du service des cimetières. Donc là, un exemple d'un document de la bibliothèque qu'on peut trouver sur le portail des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris. Donc voilà, nous sommes situés au Père-Lachaise, dans le bâtiment de la conservation, accessible uniquement sur rendez-vous parce que du fait de nos activités, nous sommes souvent en déplacement sur le terrain. Nous sommes aussi dans un bâtiment qui normalement ne peut pas recevoir du public. Donc bon, si quelqu'un d'empêché voudrait consulter nos collections, on peut tout à fait lui descendre nos collections et puis il peut les consulter en bas sans problème. On est au troisième étage de la conservation. Voilà. Et donc nous recevons essentiellement des demandes de chercheurs, de passionnés des cimetières et nous effectuons donc des recherches dans les différents registres des conservations. Voilà. On n'a pas encore eu de demande sur les horticulteurs, mais c'est le genre de demande dont nous pouvons faire l'objet. Donc évidemment, nous sommes très axés sur le minéral, sur les tombeaux, mais le Père Lachaise, c'est quand même le plus grand espace vert de Paris intramuros, avec ses 44 hectares. C'est un cimetière apprécié depuis l'origine pour ses qualités boisées. Et nous avons quand même un certain nombre de ressources sur le végétal. Il y a tout d'abord cette étude qui a été réalisée en 2012 par Lienola Groux et Anne-Laure Gerbet sur la végétation au Père-Lachaise, l'histoire et gestion d'un patrimoine paysager qui est tout à fait passionnante, qui retrace donc l'histoire du Père-Lachaise, mais cette fois-ci vraiment en axant l'étude sur le paysage et en utilisant des documents dont le public a peu connaissance, comme l'inventaire réalisé en 1848 1850 par un certain Hérouville. Et donc vous pouvez voir cet inventaire à l'écran avec le nom du concessionnaire, la dimension de la tombe. Tout à fait intéressant, un petit croquis représentant la sépulture. Donc là on peut voir beaucoup de cipes qui sont des formes parmi les plus anciennes et héritées de l'Antiquité qu'on retrouve dans nos cimetières parisiens. Et puis à cette époque-là, vraiment cet intérêt pour les végétaux qui accompagnent la sépulture. Et vous voyez ici dans cette colonne des mentions d'essence, avec ici deux acacias, un thuya, quatre cyprès, donc les végétaux en lien avec la sépulture. Donc Anne-Laure Gerbet, dans ce travail, a restitué cet inventaire sous une forme peut-être plus lisible aujourd'hui, avec, par division, la mention d'essence relevée au cimetière du Père-Lachaise. Même travail avec le relevé statistique de 1956, qui faisait partie des travaux préparatoires au classement du site, au monument historique, et où un relevé donc statistique des arbres avait été fait à cette époque. Donc là aussi, même chose, mise en forme sous cette forme-là. Et puis, tout à fait passionnant aussi, un travail de dépouillement des sources littéraires anciennes, d'anciens guides du cimetière du Père-Lachaise, où là, tous les passages qui évoquent les végétaux, les différentes essences, ont été relevés. Donc là, j'ai mis juste deux exemples avec le recueil de Jolimont sur les mausolées français. Mausolée français de 1821 et le Arnaud de 1817, où vous voyez ici en caractère gras la mention des essences végétales. Il y a beaucoup d'autres titres qui ont été dépouillés. Également, la symbolique funéraire, les végétaux qu'on peut retrouver dans les monuments, enfin voilà, tout un travail sur, très complet sur la végétation au Père-Lachaise. Épisodiquement aussi, alors là c'est un travail qui n'a pas été fait, mais tout à l'heure je vous montrais le relevé, en tout cas l'étude du lotissement à partir des matrices cadastrales. On peut avoir des mentions, alors c'est très succinct, c'est pas complet, mais chaque monument est décrit de manière sommaire, bon à l'époque Pierre Couchet pour les dalles, Pierre Monument pour les stèles, et puis parfois avec ici, comme on le voit à l'écran, deux thuyas, donc les essences végétales. Ça, ce travail n'a pas encore de dépouillement, n'a pas été fait, mais très souvent, on peut voir apparaître des mentions, ce type de mentions dans notre registre des matrices cadastrales. Voilà, alors nous avons aussi un certain nombre de projets d'aménagement, notamment un projet qui avait été confié à l'agence d'architectes Liola Mila et à l'historien conseil Patrick Bracot en 82, en vue d'élaborer un cahier des charges du Père Lachaise. Donc on a ce document avec une étude du secteur dit romantique, des monuments, de leurs états et de la végétation. Un diagnostic aussi, les mesures qui concernent l'état de la végétation au Père-Lachaise en 87 par Gilles Clément, qui fait un peu la cartographie du secteur dit romantique et étudie un peu les relations entre les végétaux et les sépultures. Là, par exemple, vous voyez trois types d'arbres. L'arbre dit compagnon, qui est à côté de la sépulture. Celui qui l'accompagne, qui est encore dans l'emprise de sa clôture, Et puis celui qui est exaucé, qui sort de la sépulture, les arbres qu'on dit les arbres nécrophages, qui vraiment poussent en détruisant la sépulture. Une étude aussi menée par Patrick Berger, donc l'architecte de la canopée des Halles, et puis toujours Gilles Clément en 88, qui concerne donc la 10e et 11e division. On a un certain nombre de plans de leurs projets qui concernent les passages, qui concernent les monuments, mais qui concernent aussi, donc, comme ici, les interventions ponctuelles végétales menées dans ce secteur. Voilà. Et puis en 1995, délibération du Conseil de Paris avec le cahier des charges du Père Lachaise, les deux cahiers des charges du Père Lachaise, qui contiennent aussi un certain nombre de prescriptions autour des végétaux que l'on trouve donc dans le secteur romantique et le secteur étendu. Autre document d'intérêt, le plan de gestion du patrimoine arboré du cimetière du Père Lachaise, élaboré entre 2008 et 2011, qui vraiment s'intéresse aux arbres d'alignement et aux arbres à l'intérieur donc de chacune des divisions, avec le bilan phytosanitaire, les projets les projets d'abattage d'arbres, de remplacement des essences, et une réflexion aussi sur les ambiances que l'on peut reconstituer dans tel ou tel secteur du cimetière. Voilà, donc on a aussi deux mémoires universitaires qui portent sur l'environnement, le paysage au Père Lachaise. Et enfin, je voulais mentionner aussi ces deux études très importantes de l'atelier parisien d'urbanisme, mais qui sont téléchargeables sur leur site, et qui concernent pour l'un le renforcement et la protection paysagère du cimetière de Montmartre, et pour l'autre, les cimetières parisiens hors de Paris. Voilà, merci pour votre attention.
J'avais juste une petite question. Est-ce qu'il y a eu une analyse en fait de la potentialité des évolutions des essences qu'on trouvait dans les cimetières au travers des inventaires qui ont été cumulés, ou est-ce que ça, en fait c'est assez constant, en fin de compte, on trouve toujours des thuyas, des acacias, que qu'on soit en 1848 ou en fin de compte en 1980.
Non, il y a quand même eu une évolution. On voit aussi qu'au début du Père Lachaise, les essences favorisées aussi avaient un lien avec le funéraire, avait des vertus, enfin le cyprès, le saule pleureur. L'idée, c'était pas de, il fallait distinguer un jardin funéraire d'un jardin public. Donc le choix des essences allait dans ce sens-là. La symbolique était très forte. Et puis ça s'est un peu distendu avec le temps. Et puis ensuite, il y a aussi tout l'aspect phytosanitaire, avec par exemple des maladies qui nécessitent d'abattre aussi, par exemple les marronniers qui sont touchés, il faut les remplacer, donc aussi il y a une évolution, bien sûr.
Monsieur, il y a une question au premier rang, il y a le micro qui arrive.
Merci. Yannick Gourlet, vice-président de la SNHF, ancien directeur des parcs et jardins de la ville de Paris, où j'ai fait toute ma carrière. Alors, plusieurs choses. La première, quand je suis arrivé au parc et jardins, mon prédécesseur, Guy Suran, avait fait quelque chose de très utile pour la collectivité. Il avait versé les archives de la direction aux archives départementales. Et ça, je trouvais ça formidable. D'autant plus formidable que, précédemment, j'ai été ingénieur en chef des canaux de la ville de Paris. Et à l'époque, le service avait une caractéristique extraordinaire, c'est que depuis sa création, il n'avait pas déménagé. Et donc, il y avait encore plein d'archives sur la construction du canal, sur les études variantes du tracé du canal Saint-Martin, etc. etc. Et là, je n'avais pas été bon parce que je n'avais pas eu le réflexe de verser les archives en question. Et je considère que c'est fort dommage. Alors, c'est juste cette anecdote pour souligner que Je crois avoir compris que dans un certain nombre de cas, mais c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, il y a une espèce de réflexe de propriétaire qui fait qu'on ne va pas vers le partage. Alors c'est sans doute moins vrai aujourd'hui à cause de la numérisation, aussi parce qu'il y a les réseaux, etc. Donc je pense que ça, cet aspect-là appartient sans doute, j'espère que ça appartient un peu au passé. Premier point. Deuxième point, s'agissant du service des cimetières, tout à l'heure, il a été mentionné la réfection des sépultures anciennes, qui est un vrai sujet. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai beaucoup apprécié le travail que vous nous avez présenté. Mais s'agissant des réfections, on avait essayé, dans la période avant 1995, en fait, conscient de la transformation des tombes anciennes, on les démolissait et après arrivaient des choses qui n'étaient pas forcément esthétiquement intéressantes. On a essayé la démarche qui consistait à dire aux gens qui voulaient acquérir une concession au Père-Lachaise, vous prenez la concession, mais à charge pour vous de restaurer. Et on est tombé sur un problème, disons, psychologique ou métaphysique, comme vous voulez. En fait, les vivants ne voulaient pas que leur mort habite la maison d'un autre. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore vrai ou pas, mais je le signale. Et puis, j'oublie sans doute quelque chose, mais je voudrais souligner que parfois, les défunts causent quelques soucis. Alors, je vais en citer trois, dont un qui a été cité, Jim Morrison. Je crois que la date anniversaire, c'est le 4 ou le 5 juillet. Et en général, j'ai assisté à des périodes un peu chaudes, en l'occurrence. Et puis, je terminerai en citant deux autres, totalement différents. J'ai eu beaucoup de soucis avec Malek Houssekine et beaucoup de soucis avec Pierre Laval. Donc, voilà. Tout ça, notamment pour Pierre Laval, parce qu'à une époque, on avait voulu sortir des monographies des personnages célèbres des cimetières. Pierre Laval est enterré au cimetière du Montparnasse. Comme j'avais eu des ennuis avec Malek Houssekine, je m'étais entouré d'une sorte de conseil, d'un certain nombre de personnes, compétentes dans le domaine de l'histoire. Et je croyais être tranquille, et en fait, la monographie du cimetière de Montparnasse est partie au pilon. Voilà. Merci de votre attention.
Est-ce que parmi vous, il y a certains qui font des recherches justement sur le végétal au sein des cimetières, que ce soit, bon, là on a vu Paris, hein, mais aussi en région, voire même en Europe, puisque aussi la configuration des cimetières, c'est un dialogue que j'ai eu avec Luc. Et pas forcément la même, même si en Allemagne, il y a plus de végétal qu'en France ou autre. Alors, il y a un micro qui arrive.
Non. Non.
Et toutes les données que vous évoquiez, y compris les inventaires qui datent de 80, etc., sont publiques. C'est-à-dire que ça peut être en ligne.
Ça sera bientôt en ligne. Hein. Ça sera D'accord. bientôt en ligne. Tous les registres seront bientôt en ligne.
D'accord.
Mais c'est vrai que sans une formation préalable, ça sera difficilement exploitable. Parce que c'est quand même assez complexe. On jongle entre plusieurs types de registres. Et s'il n'y a pas une notice explicative, ça sera très compliqué. Alors, ça sera peut-être mis en place, mais en tout cas, ça sera bientôt. C'est le projet, là, ça va arriver. Ouais. Sinon, Jim Morrison, ça s'est calmé depuis, quand même. Et par rapport au monument revente conservée, je pense qu'il n'y a plus de problèmes psychologiques aujourd'hui, que les gens sont plutôt demandeurs et que juridiquement, jusqu'à très récemment, c'était très compliqué. Et finalement, c'est le principe d'une vente aux enchères de monuments qui va être mis en place très prochainement. Ils auront du mal à atteindre la tombe, mais ils peuvent toujours essayer, oui.
J'ai une question. Vous avez fait allusion au vandalisme, au vol de bronze. Est-ce que ça s'est calmé? Comment faites-vous pour lutter contre ce type d'exaction? Parce que surveiller des cimetières immenses comme ça, ça paraît compliqué.
Alors, au plus fort de cette vague de vandalisme, un certain nombre de bustes ont été sécurisés. C'est-à-dire que comme ceux-ci n'étaient pas fixés de manière correcte, on les a déposés dans une réserve, qui la réserve des cimetières, et à charge à la famille de procéder à leur sécurisation. Après, ça s'est quand même bien calmé, mais il y a quand même eu, après 2007, on a quand même eu des vols aussi assez dommageables. Je pense à Thomas Couture, notamment, au Père Lachaise. Et sinon, enfin, il y a un réseau de surveillance, mais il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas eu de renforcement particulier. Non, c'est très compliqué, mais ça s'est quand même bien calmé. Il y a eu, on va dire que le point culminant, ça a été autour de 2006-2007, raison pour laquelle la cellule patrimoine a vu le jour.
Oui, alors pour revenir justement sur l'actualisation des données, est-ce que lorsqu'il y a des interventions qui sont faites dans les cimetières, vous êtes bien identifié, on vous relaye l'information ou pas? Parce que nous, c'est un problème que l'on rencontre à la bibliothèque du Breux, justement, lorsqu'il y a des nouveaux aménagements, je dirais en caricaturant, si on nous demande l'histoire du parc des Buttes Chaumont, pareil. On va avoir beaucoup de documentation. Si on nous demande les aménagements récents, pour le coup, effectivement, malheureusement, l'habitude n'est pas encore prise d'avoir, de centraliser ou de relayer cette documentation pour voilà, des fins de conservation et des recherches.
C'est un vrai sujet. Après, est-ce qu'on... Par exemple, au Père Lachaise, enfin, il y a eu, jusqu'à une date récente, une paysagiste... du service de l'aménagement et du paysage qui était détaché au cimetière pour créer des éléments paysagers et pour réfléchir aussi sur l'élaboration de columbariums végétalisés. Bon, elle est partie, nous on n'a rien récupéré, donc c'est fâcheux puisque finalement c'est très récent. Alors on a des photos, mais il nous manque les éléments d'élaboration qui concernent pourtant des éléments qu'on va retrouver dans nos différents cimetières. Donc après, il faudrait effectivement qu'on coordonne plus toutes nos forces, mais c'est pas évident.
C'est une campagne de sensibilisation en fait collective aussi de la part des institutions pour. Alors nous sacrifions de plus en plus à la pause qui était prévue, donc même si elle est réduite, je vous propose quand même de la maintenir. Néanmoins, je voulais d'abord remercier l'ensemble de ces intervenants de cette première partie de la table ronde, car nous continuons avec les écoles. Et je voulais vous signaler, donc on va vous le passer pour que vous le regardiez, que parler des plantes, c'est bien, les voir, c'est encore mieux, à défaut de les sentir. Et que donc il y a une édition qui vient d'être faite par les éditions de la BNF, un ouvrage donc de Luc ici présent et de Colette Blatrix qui nous fait le plaisir de sa présence ici, qui a concocté un livre absolument magnifique en reprenant donc des planches de documents qui sont à la BNF, dont certains sont numérisés, et je vous conseille de regarder la forme des bananes dans ce livre qui est parfois un peu étonnante. Voilà, donc je le laisse là et n'hésitez pas à le feuilleter.